Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 12 décembre 89.
Nous continuons la philosophie première. Pouvez-vous préciser en quoi l'un et l'être ont la même compréhension? Et la même extension, ils sont convertibles. La ratio entis et la ratio unius sont convertibles. Bon, c'est un terme technique de saint Thomas. Ce n'est pas aristotélicien. C'est une expression au niveau critique. Le lieu, dans saint Thomas, De Veritate, question première, article premier. Je crois qu'on l'a traduit et que vous pouvez le traduire, la traduction, à la bibliothèque. Pour ceux qui ont de la peine à lire saint Thomas. Alors, il y a des bonnes volontés qui traduisent. Parce que c'est un lieu très important. On n'a pas le droit de laisser tomber ce lieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au plan critique, réfléchissant sur le concept d'être et le concept d'un, ils ont même extension et même compréhension. Voilà ce que c'est que la convertibilité des concepts analogiques. Concept d'être, concept d'un. Tout ce qui est un est être. Tout ce qui est être est un. Donc, même extension. Donc, les prédicaments qui vous donnent l'extension des modalités de l'être vous donnent aussi l'extension des modalités de l'un. Vous pouvez dire que la qualité est une, que la quantité est une comme elle est un mode de l'être. Donc, compréhension. C'est pas la signification, c'est la même extension, la même compréhension, dans le sens que le concept d'un contient le concept d'être. Et le concept d'être contient le concept d'un. Cependant, l'un ajoute quelque chose à l'être. Il ajoute le fait de ne pas être divisé et de ne pas être divisible, puisque la raison d'un implique l'indivision, que l'être ne dit pas explicitement et que l'un dit explicitement. C'est par là du reste que vous pouvez comprendre comment l'un est vraiment propriété. Parce qu'il est attribué partout, il y a l'être, il y a l'un. Et dans la même mesure où on existe, on est un. Voyez, extension, compréhension. Alors, vous allez me dire, comment l'expliquer? Qu'est-ce que signifie exactement l'être? Que signifie exactement l'un? L'être signifie ce qu'il y a de plus fondamental dans n'importe quelle réalité existante. Et que dans n'importe quelle réalité existante, il y a cette détermination, ou ces déterminations, qui nous sont données dans les substance première. De même, il est un. Il a une unité particulière, l'unité de l'individu, qui est une unité complexe, mais qui est une unité. Il rassemble toute la diversité, toute la complexité des accidents dans l'unité. Pierre est un. Parce qu'il existe, parce qu'il est. Et du fait même que vous dites il est un, parce qu'il est, il est donc un de la même manière qu'il existe. Vous prenez un concept universel, animal. Animal est un être de raison, l'universel. Bon. L'un affecte cet universel. Unité qui n'est pas réelle, existante, mais comme une unité qui relève de la signification même de animal. Animal a une signification précise. Et cette signification précise a une certaine unité. C'est appliqué dans l'universel, au nom animal. C'est une unité qui implique une certaine diversité. Mais la diversité est unifiée dans l'universel. Donc vous pouvez prendre n'importe quel exemple et vous trouverez toujours. Et vous si vous trouvez un exemple auquel vous n'arrivez pas à voir l'être et l'un, vous posez ça comme colle. Je serais très ennuyé devant cette difficulté pour vous montrer que ce qui est dans la mesure même où il est un. Alors, deuxième question, comment l'être en acte qui est un peut être source de l'être en puissance qui implique le multiple, source en tant que cause? Bien, l'être en acte est cause finale de l'être en puissance. En ce sens que l'être en acte joue un rôle d'attraction sur l'être en puissance. L'être en puissance est ordonné à l'être en acte. Selon les diverses modalités de l'être en acte. Et puisque l'un, l'être en puissance, est ordonné à l'être en acte. On peut dire que c'est l'être en acte qui attire l'être en puissance. Alors prenez là encore des exemples en comprenant. philosophie pratique envers la personne. Alors, devons-nous passer sur une philosophie spéculative? Ou bien est-ce que la personne est essentiellement un problème de philosophie pratique? Excitez un tout petit peu votre intelligence là-dessus. Est-ce que c'est essentiellement un problème de philosophie pratique? Ou est-ce que la philosophie spéculative, la philosophie dite spéculative a quelque chose à dire là-dedans? Est-ce que la philosophie de la matière a quelque chose à dire? L'individu. Saint Thomas dit ceci: bien que le nom de personne ne se trouve pas Aristote suggère que la formation du mot prosopone pourrait se rattacher à la fonction même de la face. Faut pas oublier le masque des anciens. Chez l'homme, la partie comprise entre la tête et le cou s'appelle la face. Prosopone, nom qu'elle doit, semble-t-il, à sa fonction. C'est dans les parties des animaux. Siècle après.
après Jésus-Christ. Épictète enseignait en l'an 50 après Jésus-Christ à Rome. Il semble bien que c'est chez Épictète que le mot prosopone est définitivement acquis son sens nouveau. Celui qui est capable de choisir. Prosopone, le nœud.
Il y aurait un lien entre personne et l'art,
m'amusait de dire ces choses-là. Mais c'est intéressant de voir qu'au fond, un mot aussi important que personne, pas d'étymologie sérieuse. C'est curieux, du reste. Hein? C'est toujours intéressant, ça. Parce que ça prouve que c'est assez artificiel. L'aspect conventionnel est d'autant plus grand quand l'étymologie ne ramène pas à quelque chose où il y a quand même un lien entre la réalité connue et le nom. Quand il n'y a aucun lien, l'aspect conventionnel est d'autant plus grand. Alors c'était Meyer qui disait ça, un homme qui avait le sens très très grand de l'étymologie. Meyer disait que quand, dans une langue, l'aspect conventionnel est plus fort, ça prouve que ce sont des mots tardifs dans le développement d'une langue. Je crois que c'est juste. C'est pour ça qu'il montrait que le verbe être en latin était tardif, alors que le verbe einein en grec est primitif. Alors pour lui, c'était le génie de ces deux langues. La langue latine, c'est une langue de droit des juristes. La langue grecque est une langue poétique et philosophique. Alors ça, je crois que c'est assez joli, assez juste. Alors on voit très bien comment le mot prosopon chez les Grecs, peut-être ancien, il a pris des sens différents. Mais il y a quand même quelque chose qui continue. La face. Personne, la dignité. Vous voyez, grâce au masque, vous symbolisiez tel ou tel personnage. Et donc, vous aviez une dignité. Vous jouiez ce rôle. Il faut de la dignité pour jouer ce rôle. Ben, quand on joue le rôle du diable, ça peut arriver, ça. Eh bien, quand on joue le rôle, on porte une dignité sur la tête. C'est évident. Ça fait partie d'un... Et si on joue ça parfaitement, au bout d'un certain temps, on s'identifie. Là, ça devient très très dangereux. Et c'est vrai, les acteurs, qui sont de très bons acteurs, le disent, qu'ils ont plusieurs personnalités. Ils jouent tellement bien, ils s'identifient. Alors c'est grave quand on joue des rôles d'assassin, de serpent. Serpent séducteur. Donc, quel que soit. Alors, il y aurait Cicéron aussi. Cicéron, c'est toujours très intéressant. C'est de fait chez les pères de l'Église que le mot prosopone et persona commencent à acquérir une véritable signification métaphysique. Ça, c'est intéressant. La signification métaphysique de personne vient de la révélation et des théologiens. Donc des théologiens, et par le fait même de la révélation. C'est peut-être le seul lieu où on pourrait parler d'une métaphysique chrétienne à propos de la personne. Des pères, surtout des pères grecs, est encore très hésitante et manifeste une certaine défiance à l'égard du terme prosopone. C'est seulement chez les théologiens latins, chez Boès, que la personne est définie philosophiquement comme rationalis naturae individua substantia. Qu'est-ce que c'est que la personne pour Boès? On le reverra. C'est la substance individuelle d'une nature raisonnable. Saint Thomas dira que persona est ce qui est le plus parfait dans toute la nature, c'est-à-dire ce qui subsiste dans une nature rationnelle. reste attaché au point de départ, pas le mot, mais la réalité. Reste attaché à une tradition religieuse. La destinée de l'homme, c'est en effet dans un milieu religieux que le problème de l'âme immortelle de l'homme s'est posé en premier lieu, et avec lui nécessairement celui de la destinée et celui de la personne. Donc, il y a un premier petit problème très important de préciser. Et nous verrons. Je vous pose le problème. C'est dans un climat de tradition religieuse que la réalité, je ne dis pas le mot, la réalité homme, la réalité de l'homme, et regardez dans cette destinée. Dans quelle mesure l'homme transcende-t-il le politique? Dans quelle mesure l'homme transcende-t-il l'aspect de la transcendance de la destinée? La moïra transcende-t-il l'histoire? Premier moment où on a découvert dans l'homme quelque chose qui devait être tout à fait particulier et qui dépassait le point de vue communautaire. Et voyez que ce problème, alors, est lié tout de suite à l'âme. Il y a tout ce problème, tu vois. Immortelle est liée à la destinée et la réalité profonde nous fait toucher le problème de la personne. Vous voyez tout de suite trois problèmes philosophiques très intéressants à poser. Et tout de suite, dans quelle mesure le mot personne est-il relié à la tradition religieuse? Dans quelle mesure le mot personne implique-t-il l'âme immortelle? Dans quelle mesure le mot personne peut se couper de ses traditions?